Il est 7h sur Inter. Le journal, bonjour Laurence Thomas.
Bonjour Eric.
À la une de l'actualité ce matin, le feu vert de l'Assemblée pour confier des fonctions d'enseignement aux assistants d'éducation, des surveillants qui donc vont se préparer au métier d'enseignant, un dispositif critiqué par la gauche.
Quand l'ONU tacle la France, des rapporteurs des Nations Unies s'inquiètent de la répression policière et judiciaire dont fait l'objet le mouvement des Gilets jaunes. Ils appellent la France à repenser ses politiques en matière de maintien de l'ordre. Et puis à l'étranger, 5 morts et plusieurs policiers blessés dans une fusillade dans l'Illinois.
L'invité à partir de 8h20, Aurélien Pradier, député Les Républicains du Lot. Il incarne le courant social au sein du parti de Laurent Wauquiez.
France Inter.
L'examen du projet de loi pour une école de la confiance est maintenant terminé. Hier soir, les députés se sont penchés sur l'article controversé qui prévoit que les assistants d'éducation, les AED, pourront exercer à partir de la deuxième année de licence des missions d'accompagnement, puis d'enseignement lorsqu'ils seront en première année de master, comme un tour de chauffe avant leur métier de professeur auquel ils se destinent. Sonia Princé.
Des brigades de remplacement pour boucher les trous, voilà ce que dénoncent des élus de gauche. Au contraire, c'est l'un des plus beaux dispositifs de la loi, selon le ministre Jean-Michel Blanquer.
Surtout ne caricaturons pas ce que devrait être cette expérience. Nous n'avons jamais dit qu'un étudiant de deuxième année remplacerait un professeur absent. Ça n'est pas vrai. J'ai vu qu'on disait qu'on gagnerait 200 euros et qu'on remplacerait les professeurs en étant un étudiant de deuxième année. C'est rien de tout ça. Le dispositif retenu est un dispositif éminemment social.
Les AED, les assistants d'éducation, toucheront près de 700 euros la première année, jusqu'à 980 euros la troisième année, qu'ils pourront cumuler avec une bourse étudiante. La mesure s'appliquera en priorité aux disciplines comme les maths, les sciences ou certaines langues vivantes. Et dans les académies de Versailles, Créteil, Amiens, où on manque de professeurs, ce qui inquiète Elsa Faucillon, députée communiste.
Dans les académies dont vous parlez, il y a des territoires que je connais bien. C'est là que se concentre déjà le plus de contractuels, des contractuels qui n'ont pas forcément du coup la même formation aujourd'hui que les enseignants fonctionnaires. Donc j'ai fort à craindre que ces AED viennent s'ajouter aux contractuels déjà existants dans ces territoires populaires, là où finalement le problème d'attractivité se pose.
1500 surveillants pourront signer ces contrats dès la rentrée prochaine, puis ils seront 3000 chaque année.
Alors ajoutons que cette mesure a été votée par les députés LREM et les Républicains, alors que donc les trois groupes de gauche ont voté contre. Et par ailleurs, l'Assemblée a confirmé la présence obligatoire dans les salles de classe de drapeaux tricolores et européens, ainsi que l'affichage des paroles de la Marseillaise. Vote solennel mardi au Palais Bourbon avant de migrer vers le Sénat. 3 mois de manifestation, un mouvement toujours aussi éparpillé et un début de lassitude qui gagne l'opinion pour leur acte 14. Les Gilets jaunes veulent agir tous azimuts aujourd'hui, mais aussi demain, avec des moyens d'action, des mots d'ordre parfois différents qui vont d'appel à des rassemblements pacifistes, à l'insurrection. Certains gilets jaunes appellent même à un retour aux sources et veulent réinvestir les ronds-points dès ce matin.
Oui, par ailleurs, l'ONU tacle la France au sujet de ces gilets jaunes.
Un groupe d'experts dénonce la gestion par les autorités des manifestations. Dans leur ligne de mire, les restrictions graves aux droits des manifestants, les lanceurs de balles de défense, mais aussi la loi anti-casseurs. À Genève, Jérémy Lanche.
Ce n'est pas la première fois que les Gilets jaunes s'invitent à l'ONU. L'ambassadeur russe aux Nations Unies a déjà suggéré de discuter de la gestion des manifestations en France pour mieux dénoncer l'ingérence des Européens dans la crise au Venezuela. Mais cette fois, les critiques viennent de 3 experts indépendants, notamment le français Michel Forst, le rapporteur spécial de l'ONU sur les défenseurs des droits de l'homme. Le droit de manifester a été restreint de manière disproportionnée, disent les experts. Ils soulignent le nombre particulièrement élevé de blessés, 1700 personnes. En cause, l'usage disproportionné, là encore, de la force, notamment des fameux lanceurs de balles de défense. Les experts disent être conscients de la violence de certaines manifestations, mais ils appellent les autorités à revoir leur politique de maintien de l'ordre et surtout à revoir la loi anti-casseurs. L'interdiction administrative de manifester est pour eux incompatible avec le pacte international relatif aux droits civils et politiques que la France s'est engagée à appliquer. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Il s'y était engagé le 19 septembre lors d'une cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme, aux Invalides. Emmanuel Macron instaure une journée nationale en hommage aux victimes du terrorisme qui aura lieu le 11 mars, en écho à la date de la journée européenne qui commémore l'attentat djihadiste le plus meurtrier en Europe. C'était à Madrid le 11 mars 2004, 200 morts. Satisfaction du porte-parole et délégué général de l'Association française des victimes, Guillaume Denoy de Saint-Marc.
Il est très important qu'il y ait une journée nationale consacrée à ce phénomène-là, consacrée aux victimes du terrorisme, mais aussi à tout ce que ça représente. Ça veut dire qu'il y a aussi derrière une dimension éducative, une dimension information. C'est un hommage, bien sûr, aux victimes, mais au-delà, c'est une prise de conscience du fait que le terrorisme est une guerre qui nous concerne tous, pour laquelle certains sont blessés ou meurent, mais l'ensemble de la société est concernée. Et nous allons tout faire pour que ce moment-là soit un vrai moment de réflexion, de citoyenneté, où on réfléchisse à ce qui fait société et en quoi le terrorisme est quelque chose qui nous concerne tous.
À l'étranger, cette nouvelle fusillade aux États-Unis dans une banlieue de Chicago, à Aurora, 5 morts et plusieurs policiers blessés. Le récit de Loïc Loury.
Il était 13h30 environ lorsque les policiers sont arrivés sur place. Immédiatement, le tireur les prend pour cible. 5 d'entre eux sont blessés. L'assaillant, lui, est abattu mais trop tard pour éviter le massacre. L'individu en question a ouvert le feu à l'intérieur d'un bâtiment situé dans une zone industrielle d'Aurora. Son nom est déjà connu, Gary Martin, un homme de 45 ans. Il s'agirait d'un employé de l'entreprise touchée par cette tuerie, la Henry Pratt Company, un spécialiste des valves. Impossible toutefois d'expliquer les raisons de ce carnage. Un témoin en tout cas assuré à CNN que Gary Martin travaillait ici depuis une quinzaine d'années. Il tirait sur tout le monde, dit-il, avec un pistolet à visée laser. J'ai vu l'un de mes collègues saigner abondamment. Le président américain Donald Trump a réagi. Il salue le formidable travail des forces de l'ordre. La législation sur les armes à feu, elle continue de stagner outre-Atlantique. New York, Loïc Loury, France Inter.
C'est une première en France dans la traque des responsables d'exactions attribuées au régime de Bachar al-Assad. Un Syrien a été mis en examen et écroué pour complicité de crimes contre l'humanité dans son pays. Interpellé mardi en région parisienne, cet homme est soupçonné d'avoir participé aux exactions commises contre les populations civiles par le régime syrien entre 2011 et 2013, alors qu'il était membre des services de renseignement locaux.
Les recettes du succès pour un livre ou pour un film, eh bien ça reste souvent un mystère, et c'est le cas étonnant de ce film autoproduit, un film qui est en train de vivre un destin hors du commun.
Il s'appelle Lucie, après moi le déluge. C'est un documentaire de Sophie Loridon, budget minuscule, pas encore de distributeur, mais depuis fin janvier, à chaque fois qu'il passe dans une salle de cinéma en Ardèche, en Rhône-Alpes ou en Isère, eh bien il fait salle comble, et il faut même multiplier les séances, car cette Lucie, Christine Siméon, ne laisse personne indifférent. Avec elle, c'est un plongeon dans une vie de simplicité et d'authenticité.
Lucie, c'est Lucie Vareil. On la découvre à l'écran dans la dernière année de sa vie, vieille dame solitaire dans un hameau abandonné sur le plateau du Vivarais en Ardèche.
On se plaint aujourd'hui, mais on n'a pas le droit de se plaindre.
Un destin presque banal qui couvre un siècle d'histoire dans la France rurale et profonde. Un petit bout de femme au caractère bien trempé.
Moi, ça me fait bien, parce que elle est toujours dans son temps, quoi. C'est une bonne vieille Lucie, quoi.
La réalisatrice et productrice a mis tout son talent dans ce film. On pense parfois aux paysans de Depardon. Elle se dit complètement dépassée par le succès de Lucie.
Je suis un peu encore secouée. Du coup, hier à Saint-Vallier, on a fait une salle pleine. Puis ça n'a pas suffi, ils ont dû ouvrir la seconde salle au cinéma. Et du coup, la seconde salle était pleine, il y a eu 430 personnes qui sont venues. On a dû faire 2 séances en même temps. C'était complètement magique, c'est assez impressionnant en fait.
Sophie Loridon espère qu'un distributeur va désormais prendre en charge son film et lui assurer une sortie nationale, car d'autres départements réclament Lucie et son film le mérite bien.
Je suis un peu exceptionnelle.
Lucie, un peu exceptionnelle. Lucie, après moi le déluge, donc bientôt, on l'espère, au cinéma. Voilà Eric.
C'était le journal de Laurence Thomas. Le temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles. Cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Avec du soleil, des températures élevées pour la saison, Jean-Michel Golinski.
Ah, tout à fait Eric, cet après-midi les valeurs vont confortablement s'installer entre 12 et 16 degrés dans la moitié nord, 14 et 18 au sud, avec même des pointes à 20 degrés prévues du côté de Clermont-Ferrand et de Biarritz. Et pour ne rien gâcher, eh bien les brouillards de vallée seront rapidement suivis par un très bon ensoleillement en général. Mais un ciel tout de même un peu plus nébuleux, un peu plus mitigé à signaler pour l'ouest de la Bretagne et sur le Roussillon où le vent marin sera sensible. Demain, pas de changement avec toujours de la douceur et du bleu dans l'ensemble, sauf sur la pointe ouest et dans le golfe du Lion où l'ambiance sera plus hésitante qu'ailleurs.